Troisième partie. Beaubourg. Chapitre 35. Vassili Kandinsky. Trouve le spirituel en chaque chose. Ainsi, la page du primaire était tournée. Bientôt, ce serait le collège. Mona pourtant ne s'en rendait pas compte. Tout à sa joie de la kermesse de fin d'année, elle s'époumonait de rire au chamboule-tout en compagnie de Lily et de Jade. Les trois amis multipliaient les parties et chaque fois qu'éclatait la pile dans un tintamarre furieux, leur cri fusait, vainqueur et strident. Ivres d'excitation, elles gagnèrent leur classe où Madame Hadji présentait les fameuses maquettes élaborées tout au long de l'année. La modélisation de l'astre lunaire gravitant dans sa boîte éclairée qu'avait signée Diego, avec la vague complicité de Jade, suscitait toutes les attentions, allumait les curiosités. Les adultes moutonnaient, jouaient des coudes et des épaules pour approcher ce morceau de diorama. Et puis, sans que l'on sache pourquoi ni comment, un drame survint. Après un moment de confusion, on retrouva broyer la lune en papier mâché. La grosse sphère argentée avait été aplatie comme une crêpe. Un accident, le fruit d'une bousculade, la malveillance d'un jaloux. Personne n'avait rien remarqué, on aurait dit une cruauté du diable. La chose était cassée. On prévint Diego. Il rumina la nouvelle en silence, 3 ou 4 secondes, et disparut. On ne le revit pas. Quant à la maquette de Mona et Lily, censée figurer la future chambre de cette dernière, elle comportait un adorable détail. Dans l'énorme panière, les filles avaient glissé la figurine d'un chat. Une figurine Vertuni dérobée à la brocante. Mona s'était rappelé que le dandy qui collectionnait les personnages se les procurait pour reconstituer des souvenirs. Il en faisait le théâtre de sa mémoire. Elle avait inversé le processus. Ce moulage de chat en plomb lové entre les 4 murs miniatures, c'était un appel, une prière faite au père de Lily qui se pressait lui aussi parmi les autres parents devant les créations de leur progéniture. Le message était passé et la bête ferait le voyage. Il le jura. Lily ne s'arrêta pas en si bon chemin. Elle suppliait maintenant son père d'inviter Mona et Jade à venir la voir en Italie dès l'emménagement. Il se contenta évasivement de donner rendez-vous aux vacances de la Toussaint. Lily explosa. « La Toussaint? Mais c'est tellement loin, c'est injuste! J'en ai marre de toi, j'en ai marre de tout, marre !» Mona comprit qu'il fallait calmer son amie. Elle lui fit alors une astucieuse démonstration en comptant sur les doigts. « Lily, la Toussaint, c'est dans 4 mois. Mais en fait, quand on y pense, c'est 4 mois sur les 12 d'une année. C'est-à-dire comme si c'était dans une année divisée en 3. C'est seulement dans un tiers d'année. » Et cette simplification de fraction, qui rappelait que les bancs de l'école n'étaient pas encore tout à fait abandonnés, dérida Lily. L'artifice mathématique lui avait rendu l'échéance plus acceptable. Les filles repartirent en fanfare, ravager le chamboule-tout. Mona n'avait jamais vu le centre Georges Pompidou qu'Henri Vuillemin appelait, comme tout le monde, Beaubourg. Cette querelle de noms privilégiait le souvenir d'une vieille appellation médiévale plutôt que la mémoire plus fraîche d'un président français amateur d'art moderne. Découvrant le bâtiment avec son grand-père, Mona en fut toute chavirée. Ses couleurs vives et ses grands réseaux tubulaires lui donnèrent l'impression d'un immense jouet, et elle avait du mal à croire qu'un musée puisse revêtir un aspect si peu sérieux. L'architecture imprimait ainsi dans l'air de juillet une atmosphère ludique. D'ailleurs, sur l'esplanade en légère pente qui faisait face au bâtiment, 2 jeunes garçons semblaient bien s'amuser. Exceptionnellement musclés, ils effectuaient un numéro insensé. Le premier tendait les bras à la perpendiculaire du sol, se dressait tête en bas, jambes en l'air, raide comme un i, tandis que le second escaladait son corps pour adopter la même position en agrippant ses semelles avec ses paumes. Mona fit l'analogie avec Beaubourg, dont l'architecture était également sans dessus-dessous. Henri confirma. Au lieu de cacher les escaliers et les ascenseurs, les ventilations, les conduits et les gaines pour l'eau et l'électricité, les machineries, on avait tout rendu visible. Mona s'imaginait déjà entrer dans les gros tuyaux et y faire un tour de montagne russe. Mais son grand-père s'empressa de freiner ses fantasmes de fête foraine. Ce fut dans une élégante galerie des plus classiques qu'il l'emmena voir une petite œuvre sur papier. Un cavalier, muni d'une cape rouge, surmontait un cheval blanc qui s'élançait dans l'espace, bondissant, s'envolant en un mouvement diagonal de la gauche vers la droite de la composition. Ses jambes se tendaient à l'horizontale, en avant et en arrière, ainsi qu'on schématise abusivement un grand galop ou le saut d'un obstacle. L'œuvre était une étude, c'est-à-dire quelque chose de préparatoire, de ramassé et certainement d'inachevé. Le dessin en était très simplifié, avait même une maladresse enfantine, car le protagoniste et l'animal n'étaient en fait qu'un jeu de traits à l'encre de Chine dépourvu de détails. Il se réduisait à des silhouettes de profil. L'arrière-plan vibrait en un orangé suggérant une lumière de crépuscule, ou d'aube peut-être, tandis que gravitaient tout autour des motifs extrêmement incertains, difficilement qualifiables. On en distinguait quatre, qui naissaient plus ou moins aux angles du vague rectangle sur lequel figurait la scène. À gauche, il y avait en bas une espèce de pain squelettique noir, superposé à une masse d'aquarelle verte, masse qu'on retrouvait aussi en haut, plus étendue et contenue dans un cerne d'abord dentelé, puis arrondi. À droite, partant vers le centre, il y avait en haut une forme étirée rimant avec celle du cheval, presque parallèle à celui-ci, une espèce de nuage qui venait jouxter un demi-cercle solaire, lui-même adossé à la cape du cavalier. Quant à l'angle du bas, il était pour ainsi dire rongé, découpé. Un pan de couleur vineux et violacé engendrait un réseau racinaire noir montant vers le ciel. Répartis un peu partout, comme en lévitation, des trouées ombreuses mouchetaient l'ensemble. Enfin, il fallait noter que cette image se découpait sur un fond badigeonné d'un bleu profond, couleur qui servait de même à figurer le corps du cavalier. Mona examina le dessin 20 minutes, persuadée d'emblée que derrière sa simplicité apparente se profilait une grande complexité. Elle aimait aussi le nom de l'artiste écrit sur le cartel avec cette sonorité de cristal, Vassili Kandinsky. « C'est un nom russe », précisa Henri. « Il est né à Moscou en 1866. Et le petit dessin que tu vois là date de 1911. » On peut donc dire que l'artiste, du haut de ses 45 ans, était déjà un homme d'âge mûr quand il l'a réalisé. Il avait un tempérament très pondéré, raisonnable. Il aurait d'ailleurs dû devenir professeur à l'université. Quand il se mettait à son chevalet, il veillait toujours à s'habiller très élégamment, non en blouse, mais en costume. « Ah bon ? Il a plutôt l'air de dessiner comme un enfant. Il y a de cela, peut-être. » Mais ne te rappelles-tu pas notre conversation devant le tableau de Cézanne ? Mona s'en souvenait, oui, mais elle réclama qu'on lui rafraîchisse la mémoire. Henri expliqua donc à nouveau comment certains peintres cherchaient à en revenir au langage élémentaire de la prime jeunesse, en poussant ce mode d'expression, en apparence indigne de la maturité, au maximum de son potentiel. Ici, Mona, il y a des motifs qui sont reconnaissables. Vois-tu lesquels ? Je vois qu'il y a un homme monté sur un cheval blanc. Il est habillé en bleu avec une cape. Ils ont l'air de partir vers le ciel. Et autour, c'est plus dur à dire. Il y a par exemple des choses noires, comme des bouts de charbon qui flottent un peu partout, et on se demande ce que cela peut être. Oui, c'est impossible de poser des mots là-dessus. L'espace dans lequel le cavalier prend son envol rappelle vaguement des motifs de la nature, un arbre, un ciel parcouru d'un nuage, un monticule peut-être, mais ce sont en fait des formes libres, d'autant plus intrigantes qu'elles n'ont pas l'ambition de ressembler à ce que nous connaissons. On pourrait donc dire qu'elles sont abstraites. Je vais te raconter une histoire à ce sujet. Un soir de 1908, Kandinsky revient dans son atelier situé dans la ville allemande de Murnau. Et dans la pénombre de ces lieux familiers, il découvre soudain quelque chose de tout à fait inattendu. Un énigmatique tableau plein de couleurs somptueuses où ne se révèle aucun sujet. Cette œuvre, il ne la connaît pas et elle lui fait un très vif effet. Comment est-ce qu'elle pouvait être dans son atelier ? Quelqu'un a dû vouloir lui faire une farce? C'est le destin qui s'est occupé de la farce. Voici l'explication. Dans la confusion des lumières déclinantes de la fin du jour, il n'avait en réalité pas reconnu un de ses propres tableaux. Celui-ci était en effet posé sur le côté, et parce qu'il était ainsi renversé, il n'avait pas davantage vu qu'il s'agissait d'un paysage. Il n'y distingua que des explosions chromatiques et des lignes traçant leur libre chemin. Ah ! Il était à l'envers, en fait. Je comprends. Ce qui compte, c'est la beauté des traits et des nuances, à l'aquarelle, à l'encre de Chine. On avait déjà un peu vu ça avec Whistler, tu te rappelles ?
Tout à fait, Mona.
Et maintenant, regarde le cavalier. Le cavalier, reprit l'enfant avec une voix qui vibrait soudain d'émotion. Le cavalier, il forme une oblique.
Elle dit ce mot avec une certaine fierté.
Et il bondit, mais d'une façon tellement exagérée qu'on a l'impression d'une fusée. Et le jaune, l'oranger, le violet, cela fait comme une explosion au milieu du bleu qui cerne l'image. C'est le feu d'un décollage dans le ciel.
Mona mima alors de la main, parallèlement à l'animal de Kandinsky et au vaste nuage en diagonale, l'envolée d'un avion. Elle accompagna son geste d'un gros bruit de moteur avec la bouche. Cela interpella Henri qui attrapa les doigts tendus de sa petite fille et les serra avec tendresse. Il réalisait soudain que la période où ce dessin avait été exécuté coïncidait justement avec la naissance de l'aéronautique. Aussi parla-t-il à Mona des exploits de Louis Blériot traversant la Manche à bord de son monoplan en 1909. Et évoqua-t-il les premiers rêves d'exploration spatiale. Or, expliqua-t-il, il y avait chez Kandinsky, comme chez de nombreux artistes de sa génération, la conjonction entre deux influences en apparence opposées. D'un côté, ils aimaient revenir à des sources naturelles, les cultures populaires, primitives, parfois frustes. De l'autre, ils se passionnaient pour tout ce qu'impliquaient les découvertes et les innovations techniques du début du siècle. « C'est drôle, » ajouta Mona. Il y eut pendant très longtemps des millions et des millions de gens qui voulaient aller dans le ciel en se disant qu'ils y trouveraient peut-être le paradis. Et là, Kandinsky nous dit qu'on va enfin pouvoir aller facilement visiter Dieu et les anges avant même de mourir grâce au progrès de son temps. » Henri était rassuré. Ce que venait de dire sa petite fille était certes joliment tourné, mais demeurait empreint d'une telle fraîcheur qu'il comprit qu'elle était encore loin d'avoir basculé du côté de l'adolescence. Il constatait surtout qu'il restait bien des nuances à lui apprendre pour lui faire mieux saisir ce qui relève du symbole. Ce que racontait Kandinsky, ce n'était évidemment pas qu'on allait pouvoir concrètement faire un tour rapide dans l'au-delà avec quelque engin que ce soit. S'il jouait sur l'imaginaire de la conquête spatiale, c'était pour exhorter le monde à se tourner vers le spirituel.
« Ça y est !» dit Mona après avoir posément réfléchi. Un cavalier, il est libre. Il galope où il en a envie. Il part à l'aventure. Et là, en plus, il est bleu. Et ça, c'est très important parce que c'est la couleur du ciel. Tu me l'avais dit devant la belle jardinière de Raphaël. Ce cavalier bleu, c'est l'allégorie de notre esprit qui peut aller partout où il veut.
Et le cavalier bleu, ou Blaureiter en allemand, va d'ailleurs servir de symbole de ralliement à tout un groupe d'artistes. En outre, ce dessin était originellement destiné à illustrer la revue de ce groupe. Dans celle-ci, Kandinsky et ses amis expliquent qu'ils veulent donner une large place à ce qui est poétique et onirique. Ils veulent que les arts et les artisanats dialoguent ensemble, sans aucune distinction ni hiérarchie. Ils veulent se défaire de l'obligation de représenter ce qui existe simplement sous nos yeux. Et regarde, Mona, ni les arbres, ni les rochers, ni rien de ce paysage ne ressemble vraiment à ce que l'on pourrait percevoir au dehors. Il ressemble plutôt à des images mentales, à ces couleurs vives et à ces traits anarchiques que nous pouvons voir en nous-mêmes, au gré de flashs abstraits qui traversent notre conscience.
Et notre inconscient,
intervint Mona qui se rappelait la leçon sur Klimt et l'évocation de Freud.
Exactement.
Kandinsky ne veut pas s'adresser seulement aux yeux ou à la conscience de l'humanité, parce que ce serait ne s'adresser qu'à la surface des êtres. Il veut s'adresser à leur âme. Mona eut un air étonné et resta silencieuse un bon moment. Qu'est-ce que cela pouvait bien vouloir dire, s'adresser à l'âme de quelqu'un ? Henri vit sa mine désemparée. Alors subitement, il se mit à fredonner. Il avait une voix grave qui lui permettait de faire résonner les sons au plus profond de son palais. C'était la chevauchée des Valkyries de Wagner. Et à peine en fit-il couler quelques notes a cappella, que Mona se trémoussa sur ses jambes. Il sourit. « Tu sens, Mona, comme la musique a ce pouvoir de s'adresser directement à tes fibres les plus sensibles. C'est toute ton âme qui se met à résonner. » Eh bien, Kandinsky, qui était aussi un mélomane averti, exigeait que la peinture se fixe ce même niveau d'intensité et qu'elle développe un nouveau langage capable de créer une émotion totale. Kandinsky le dit. « Ce qu'il veut nous apprendre, » Henri cita de mémoire, « c'est de vivre le spirituel dans les choses matérielles et abstraites. » Ce que dit Kandinsky, c'est que tout, absolument tout, peut être sacré. En prêtant attention au monde qui nous entoure, à la moindre de ses formes, de ses couleurs, de ses contours, on doit pouvoir apercevoir du divin, y compris dans l'objet le plus humble exécuté dans les confins des campagnes russes, y compris dans un ray de lumière ou dans le simple chant d'un oiseau. Dès lors, il n'est plus besoin de se rendre dans un temple quelconque pour que s'éveille en chacun un feu intérieur. L'étincelle est partout. Mona continua à regarder le dessin de Kandinsky de longues minutes. Mais au lieu de se focaliser sur le cavalier lui-même, elle se plongea dans les couleurs, en particulier dans la masse vibrante de bleu et dans les espèces de traits rhizomiques d'un noir épais. Dans sa tête, tonnait la chevauchée des Valkyries.